Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du cœur, mieux connaître son anatomie, oreillette, ventricule, aorte, valve, découvrir comment les médecins ont compris son fonctionnement au fil des siècles, 4800 battements toutes les heures, quelles innovations ont permis aussi aux chirurgiens cardiaques de mieux soigner les maladies cardiovasculaires. Et avec nos invités, nous allons comprendre comment ce savoir scientifique a permis au cours des dernières décennies de sauver des vies par millions. Ensemble, nous allons donc découvrir le cœur, ce siège de la vie où le sang tourne en rond en cercle fermé, comme la Terre autour du Soleil, une seule circulation, la circulation générale formée de deux boucles reliées par un seul et même extraordinaire organe, le cœur. Et ces mots, ce ne sont pas les miens, mais bien les vôtres. Un extrait du livre que vous avez signé aux éditions Albin Michel et qui s'intitule « Votre cœur, cet inconnu ». Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes l'ancien chef de service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes où vous dirigez l'enseignement de l'histoire de la médecine. Vous avez d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages à cette histoire de la médecine. Bien sûr, il en est encore question, des découvertes, des figures et même de certaines erreurs dans ce livre que vous venez de consacrer à cet organe avec lequel vous entretenez une relation particulière, peut-être même une relation passionnée. Autre spécialiste de la santé cardiaque que nous allons retrouver tout à l'heure en ligne du Sénégal, de la Casamance, le docteur Simon-Joël Manga, chef du service de cardiologie de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, maître de conférence agrégé en cardiologie à l'unité de formation en sciences de la santé de l'université Hassan Seck, toujours à Ziguinchor. Et puis en fin d'émission, chronique de Bintou Chersek, nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal. Et comme chaque jour vous avez la parole, vous pouvez nous joindre au 33 7 71 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Anatomie, fonctionnement, histoire et un chiffre qu'on retient forcément quand on lit votre livre, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, 20 000 cœurs qui sont passés entre vos mains, que vous avez opérés jusqu'au jour où c'est vous-même qui avez été opéré. Est-ce que c'est ce changement de statut de soignant à soigné qui vous a motivé pour écrire ce livre ?
Je ne dirais pas cela, mais ça a certainement contribué, en effet, parce que c'est une nouvelle vision des choses. Je pense que, en tant que chirurgien ayant opéré tant de patients, j'avais suffisamment de compassion pour me mettre à leur place au moment de l'opération. Mais je l'ai vécu directement, et ça, c'est une expérience, évidemment, qu'on ne peut pas discuter. Et je me suis aperçu que le plus important dans une telle expérience, c'est la compassion du personnel qui vous accompagne. Que vous faites confiance, bien entendu, aux gens qui vont vous opérer, vous faites confiance, bien entendu, aux médecins qui vous soignent, mais le personnel qui vous voit tous les jours, son attitude compassionnelle est très, très importante pour le malade.
Ça veut dire tout le monde, infirmière, aide-soignant, personnel d'entretien, personne qui vous sert à manger,
tout le monde.
20 000 cœurs. Est-ce que, on sait, quand on définit le cœur, c'est vraiment l'organe vital par excellence. Est-ce qu'on a, je ne vais pas parler forcément d'appréhension, parce que finalement, après tant d'années d'apprentissage, de savoir, de compétences, on n'arrive pas avec la peur au ventre. Mais est-ce qu'il y a toujours le même enjeu à chaque opération? 20 000, c'est absolument colossal.
Bien entendu, on a obligatoirement, je vous rassure, une appréhension quand on va se faire opérer du cœur. Ça, c'est absolument indiscutable. On connaît évidemment les risques d'une telle opération. On connaît évidemment un peu le tenant et les aboutissants de ce qu'est la chirurgie cardiaque, puisque j'ai fait ça pendant toute ma vie. Mais il n'empêche, on a tout à fait confiance dans les gens qui vont vous opérer, qui vont s'occuper de vous. Mais évidemment, vous connaissez les risques. Et ces risques, alors il y a une chose formidable, c'est les anesthésistes. Parce qu'ils ont des médicaments sensationnels. Mmh. Hein. Dès la veille, ils vous donnent des médicaments et vous vous endormez comme un bébé et vous vous réveillez sur le chariot qui vous emmène au bloc opératoire. Et finalement, vous dites bonjour à tout le monde, quand c'est mon cas, puisque je connaissais tout le monde dans la salle d'opération, à l'envers simplement, parce que j'étais à l'envers par rapport à l'habitude. Mais je disais bonjour à tout le monde. Mais finalement, grâce aux médicaments des anesthésistes, je me suis senti très en confiance.
Alors, relation particulière, toutes ces décennies à s'occuper du cœur des autres. Est-ce que vous avez justement appris tout au long de votre vie ? Est-ce qu'il y a des choses, après, j'imagine, au moins 40 ans d'expérience, que l'on apprend toujours au sujet du cœur ?
Ah oui, évidemment, ça, chaque nouveau cas est une nouvelle expérience. Il faut absolument être clair. Alors, il y a des choses qu'on fait de façon répétitive parce qu'on l'a fait tellement de fois. Mais à chaque fois, il y a toujours le risque de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va surprendre. Et c'est là où finalement le chirurgien d'expérience a beaucoup d'importance parce que il va être capable de réagir à des situations qui ne sont justement pas des situations de routine et qui sont, j'allais dire, presque permanentes dans l'activité de la chirurgie cardiaque.
Alors, dans votre pratique comme chef du service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, est-ce que vous aviez une spécialité ou est-ce que vous opériez tous les cœurs, quelle que soit l'atteinte cardiaque ?
Alors, j'opérais tous les cœurs, évidemment, d'adultes, c'est-à-dire que je ne faisais plus de chirurgie congénitale, que j'avais fait à un moment de ma carrière, mais je ne faisais plus ça, parce qu'à Pompidou, on était un hôpital d'adultes, et je m'occupais aussi, et c'est parce que je suis cardiovasculaire, je m'occupais aussi beaucoup de chirurgie vasculaire, et vous parliez des 20 000 cœurs opérés, vous pouvez rajouter 20 000 artères opérées, qu'elles soient au niveau du cerveau, qu'elles soient au niveau des jambes, qu'elles soient au niveau des reins, enfin, j'ai opéré beaucoup d'artères aussi.
Alors, on comprend aussi que ce cœur, il vous émerveille. Vous avez pratiquement un attachement quasi familial au cœur, professeur Fabiani Salmon, fonctionnement, fragilité, et aussi l'histoire. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la médecine, mais là, plus pointue, l'histoire de la cardiologie. Et c'est vrai que s'il y a une spécialité dans laquelle on a observé des progrès absolument extraordinaires, c'est vraiment la cardiologie au cours des siècles. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme d'accélération au cours des dernières décennies ?
Je vais être très clair avec vous. Il a fallu un millénaire à peu près pour comprendre. Il a fallu un siècle pour décrire les maladies, le 19e en l'occurrence. Et il a fallu 50 ans, 70 ans, disons, pour trouver les bons traitements. Car juste après la guerre de 39-45, on a très très peu de traitements cardiologiques efficaces. Tous les médicaments, et bien entendu la chirurgie et l'interventionnel maintenant, ne sont nés qu'après les années 50.
Ça veut dire un millier d'années à comprendre, ça veut dire, sans être critique par rapport à nos ancêtres, à s'être aussi beaucoup trompé au sujet du cœur.
Alors, on s'est beaucoup trompé, mais c'était pas tellement facile d'arriver aux choses. Pour un ancien, pour un antique, quelle est la différence entre un mort et un vivant ? C'est très simple. Le mort, il est froid. Le vivant, il est chaud. S'il est chaud, il y a un organe qui donne la chaleur. Il y a une chaudière. Vous mettez la main sur la poitrine, même à l'époque d'Hippocrate, vous entendez boudoum, boudoum, boudoum. Eh bien, vous dites, voilà la chaudière. Autrement dit, le cœur, pour les anciens, est une chaudière.
Et pour vous, c'est quoi un moteur ?
Pour moi, c'est entre autres un moteur, oui. Mais un moteur très particulier, un moteur en relation permanente avec votre cerveau, qui fait qu'on a tellement projeté sur le cœur des attitudes mythiques, parce que dès que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, le cœur bat plus vite. Dès que vous êtes ému, il bat aussi plus vite. Dès que vous vous reposez, il bat plus lentement. Donc, c'est un cœur qui est en relation permanente avec votre cerveau, qui en fait un organe de projection de votre propre cerveau.
Donc, il y a beaucoup d'émotionnel aussi relié à ce cœur. D'ailleurs, à tort et à raison, parce que vous insistez en particulier à quelque chose qui peut être directement lié à nos émotions, c'est le stress.
Alors, le stress, oui, c'est formidable. Le stress, évidemment, quand vous êtes stressé, votre cœur a un rôle à jouer. Parce que comment ça se passe, le stress, au départ, dans l'évolution de l'espèce humaine ? C'est vous vous trouvez devant un énorme monstre qui veut vous manger. Donc, à ce moment-là, votre cerveau, encore le cerveau, produit une hormone qu'on appelle l'adrénaline, au-dessus des reins, et qui va aller sur votre cœur. Et qu'est-ce qu'elle va donner, cette adrénaline ? Elle va faire battre votre cœur beaucoup plus vite, elle va faire monter votre tension. Pourquoi ? Pour prendre vos jambes à votre cou et vous échapper le plus vite possible.
Sauver sa peau, tout simplement.
Oui, c'est peut-être grâce à cette adrénaline qu'on a pu se sauver. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il ? Vous avez un stress. Votre patron vous engueule. Qu'est-ce que vous faites ? c'est rare que vous lui donniez votre coup de poing dans la figure et que vous partiez en courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette adrénaline qui a été sécrétée, boum, elle arrive en place sur votre cœur et elle n'en sort pas. Elle n'est pas, en quelque sorte, utilisée pour l'effort pour lequel elle est prévue. Et c'est ça, sans doute, qui est la cause du stress, qui va entraîner des tas de complications. L'hypertension artérielle en est une des plus simples, mais qui va entraîner un problème pour votre cœur.
Alors, si on s'arrêtait, on revient à l'histoire, si vous voulez bien, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Quelques dates clés aussi. C'est vrai qu'en médecine, on a des grands noms en tête. Est-ce que c'est vrai aussi en cardiologie? Il y a vraiment des figures qui ont changé le cours de votre pratique et de votre exercice au XXe siècle et un petit peu au XXIe siècle?
Alors, si vous parlez des grands noms de la cardiologie dans l'histoire, il faut quand même parler de Harvey, quoi. C'est celui qui décrit la circulation sanguine, quand même. Hein. Il faut, bon, rendons-lui l'hommage qu'il mérite. On est au XVIIe siècle, c'est
Pourtant, il n'est pas très connu, ce nom de Harvey, dans le grand public.
Peut-être pas.
Non, mais je vous le dis, il n'est pas très connu, le Harvey.
Peut-être, on parle plus de Fleming ou de Pasteur, je sais bien. Ouais. Mais enfin, Harvey, c'est l'homme qui décrit, avec un petit bouquin tout petit, où il s'appelle « Demotu cordis et sanguine », il décrit le premier... toute la circulation sanguine qui est complètement en désaccord avec ce qu'avait écrit Galien avant lui. Donc, c'est vraiment l'homme qui a créé, finalement, quelque part, la cardiologie. Alors maintenant, vous me parlez du XXe siècle, XXIe siècle, j'ai eu la chance de rencontrer, évidemment, des très grands noms et d'avoir été l'élève de très grands chirurgiens. Hein, en particulier, mon premier patron, Charles Dubos, qui a créé la chirurgie cardiaque en France. Ensuite, Alain Carpentier, qui a été l'homme qui a inventé, finalement, la chirurgie moderne des valves. Donc, et puis, le cœur artificiel. Donc, vous voyez, j'ai eu des très grands maîtres.
Ça veut dire qu'il y a la grande histoire, il y a votre propre histoire, et puis il y a cette pratique, avec toutes ces connaissances aussi qu'on retrouve dans votre livre, parce que c'est vraiment ce mélange entre l'histoire avec un grand H et la pratique. Qu'est-ce qui va encrasser le cœur? Qu'est-ce qui est mauvais pour le cœur? Et là, on peut agir en termes de prévention.
Alors, il faut bien reconnaître, rendons aux Américains ce qu'ils méritent de temps en temps. En 1948, ils prennent une petite ville des États-Unis, dans le Connecticut, qui s'appelle Framingham, et ils prennent la population de Framingham, c'est une ville de 20 à 30 000 habitants, et ils se mettent à l'étudier pendant toutes les décennies qui suivent, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a des facteurs de risque pour la maladie coronaire, la maladie du cœur, donc la maladie des artères du cœur, et qu'il faut les découvrir. Ils s'intéressent surtout aux hommes et pas aux femmes. Et là, c'est un grand drame, parce que les femmes vont être mises au deuxième plan pendant très longtemps. Et grâce quand même à cette étude de la Framingham Study, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque que maintenant on connaît par cœur, hein, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le tabac. Et on s'aperçoit que non seulement ce sont des facteurs de risque, mais quand ils sont associés, non seulement ils s'additionnent, mais ils se multiplient. Et ça, c'est la connaissance de tous ces signes que maintenant presque tout le monde connaît, parce qu'il y a eu des grandes campagnes de presse qui ont été faites. La sédentarité est un risque aussi, comme chacun sait. Et tous ces risques-là ont été pris en compte. Pas tellement le stress, parce que les gens de la Framingham Study ne sont pas intéressés au stress, mais on vient d'en parler. Et puis surtout, on n'a pas étudié le problème des dames. Or, une femme a beaucoup plus de risques de mourir d'un infarctus du myocarde que de mourir d'un cancer du sein.
On en parle aujourd'hui davantage, mais il y a encore énormément à faire à ce sujet, notamment sur les symptômes, qui ne sont pas forcément connus.
Alors, oui, parce que les symptômes chez les femmes sont souvent des symptômes moins nets, moins expressifs que chez les hommes. Chez les hommes, c'est souvent une grande douleur dans la poitrine qui irradie vers la mâchoire, qui irradie vers le bras gauche. Chez la femme, c'est pas aussi simple que ça. Sans compter que les femmes ont tendance un petit peu à minimiser leur symptomatologie. Ça peut être une douleur au niveau de l'estomac, une douleur dans le dos, des sensations de palpitations.
Qui peuvent être confondues donc avec d'autres problèmes.
Avec beaucoup d'autres problèmes. Et même lorsqu'on fait des examens de dépistage, ils sont un peu moins nets que ceux qu'on peut dépister chez les hommes. D'où le fait qu'on passe, heureusement, Claire Mounet-Veillé en particulier, a beaucoup insisté depuis quelques années sur justement cette pathologie de la femme.
Professeur de cardiologie, qui a notamment le bus des femmes qui circule dans les villes de France pour faire du dépistage chez les dames.
Tout à fait, elle est elle-même professeure à Lille et elle a insisté sur le problème de ces femmes qui ont été un peu mises par toutes les études, un petit peu au rencard. Au prétexte d'ailleurs qu'on ne voulait pas leur donner de médicaments, parce que si elles étaient enceintes, ça aurait pu interférer avec les médicaments. Mais il n'empêche qu'il y a eu incontestablement un biais du fait de cette considération.
Alors, quand on parle santé cardiaque, on va y revenir tout à l'heure avec les auditeurs, il y a l'anatomie et il y a le vocabulaire. Illustration avec une question que nous a adressée sur WhatsApp Vincent qui vit au Cameroun. Je vais vous lire cette question avec trois termes qui méritent des explications. Quelles sont les causes d'une dysfonction diastolique ventriculaire gauche ? Quel est l'état du cœur quand on est atteint de cette anomalie ? Alors, dysfonction diastolique ventriculaire, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que la plupart du temps, il y a des dysfonctions liées à la contraction. Donc, c'est des dysfonctions systoliques. Là, c'est la dysfonction diastolique. C'est-à-dire c'est au moment de la diastole, au moment où le cœur se relâche pour accepter le sang qui vient de l'extérieur. Alors, il y a des tas de causes de dysfonction diastolique. Je ne peux pas répondre à la question de votre auditeur. Mais, par exemple, il y a des causes parasitaires qui entraînent une atteinte au niveau des diastoliques du ventricule. Et puis, il y a d'autres bien d'autres maladies qui peuvent entraîner des dysfonctions diastoliques. Tout cela ne peut se comprendre que grâce à des examens qui maintenant sont parfaitement codifiés et qui aboutissent à des traitements qui, eux aussi, sont de plus en plus efficaces.
Donc la réponse à Vincent, le mieux, c'est quand même de se tourner vers un spécialiste quand on vit au Cameroun et d'aller dans un service hospitalier, au service de cardiologie, surtout si on est concerné, pour poser toutes les questions à la personne compétente qui pourra bien évidemment vous examiner et vous répondre en toute connaissance de cause. On va poursuivre notre échange, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, avec les questions des auditeurs tout à l'heure. Et puis on donnera aussi la parole à l'un de vos confrères cardiologues au Sénégal, juste après Dany Boumba avec ce titre. Et puis quoi encore dans Priorité Santé sur RFI.
Et puis quoi encore, et puis quoi encore avec mon cœur.
Appuie sur mon cœur avec ton corps. J'aime entendre comme il résonne au cœur corps quand il frissonne. Appuie sur mon cœur avec ton corps. Épice le décor d'amour vainqueur. Mets du piment dans ma vie, mets du ciment dans mes envies. Épice le décor d'amour vainqueur.
Et puis quoi encore avec mon cœur. Et puis quoi encore, et puis quoi encore avec mon cœur. Et puis quoi encore, et puis quoi encore avec mon cœur. Tu voudrais que je te le donne pour qu'on s'y dit la parole.
Yo moto prometa kinga bolingo bolingo eke iko apie nini nini angona motema nangayo como nangayo mate como nangaba mate bona lingi yo. Moto la kayo kolinga ngai kolinga moke iko apie nini amona motema na ngai yo komona ngai umate komona ngai bambate bona lingi yo. Yo moto la kayo kolinga ngai.
Priorité santé sur RFI, le cœur avec ce livre, Votre cœur c'est inconnu, écrit par notre invité du jour, publié chez Albin Michel, toujours avec nous donc, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, ancien chef de service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, grand connaisseur de l'histoire de la médecine, histoire de la cardiologie qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'avez vécu, si on peut dire, de l'intérieur, avec des moments aussi, des rencontres de votre propre histoire, moments pas comme les autres. Vous racontez, ça m'a marqué, une de ces opérations en forme de sauvetage, transplantation d'une jeune femme qui s'appelle Carole. Est-ce qu'on peut partager cette histoire avec nos auditeurs ?
Oui, bien entendu. Bien entendu, c'est quelque chose qui je reconnais, est très émouvant. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'une très jeune femme. C'est une jeune femme qui a pas 20 ans, qui est étudiante, qui veut partir faire du sport et de la plongée sous-marine. Et vous savez, il faut passer un petit examen avant la plongée sous-marine. Et là, son médecin trouve qu'elle a un cœur un peu gros. Rien de la gêne. On lui demande la gymnastique au lycée. Elle dit oui, ça allait très bien. Et puis, il fait le diagnostic et le diagnostic tombe comme un couperet. Cardiomyopathie dilatée. Alors on dit idiopathique parce que ça veut rien dire, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que malheureusement le traitement, après quelques traitements médicamenteux, mais le traitement à terme va être la transplantation cardiaque.
Ça veut dire que quoi ? Le cœur est amené à cesser de fonctionner à un moment donné ?
Voilà, exactement, il se dilate et puis il n'est plus efficace et c'est une cardiomyopathie, c'est une maladie du muscle cardiaque. Mais une maladie là en l'occurrence qui est une maladie héréditaire. Donc c'est quelque chose qui est évidemment très très grave. Et quand vous dites une gamine de 18 ans qui veut aller partir au club Méditerranée, vous lui dites voilà, on va peut-être vous faire une transplantation cardiaque, je peux vous dire que vous imaginez le maelstrom que c'est dans sa tête. Alors au début, elle vous claque la porte au nez, elle se barre en disant ouais, allez vous faire foutre et ainsi de suite. Ouais, c'est normal. Et puis malheureusement les années passent et puis
il y a les symptômes qui arrivent.
Les symptômes arrivent, elle est essoufflée, en plus elle habite je sais plus au 6e étage, donc elle n'arrive plus à remonter chez elle. Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Donc, à un moment, elle s'écroule dans la rue avec ses bouquins, parce qu'elle est à la faculté de droit. Elle tombe par terre et on l'amène dardard dans mon service, en l'occurrence, pour qu'on prenne en charge tout ça. Et la seule façon qu'on a de faire, tellement les choses ont évolué, c'est de mettre en place un cœur d'assistance, un cœur artificiel d'assistance. Donc, allez, puis il faut le mettre aussi.
C'est une machine qui bat. C'est le sang à sa place.
Le ventricule n'est pas à l'intérieur, il est sur le ventre. Et puis, il remplace le cœur, en quelque sorte, en attendant la transplantation. Parce que la transplantation, on ne l'a pas...
Il faut qu'il y ait un cœur.
Il faut qu'il y ait un cœur qui est compatible, évidemment. Et puis, il faut que ce soit possible. Il faut attendre. Puis, bien entendu, il faut lui mettre aussi un rein artificiel, parce que le rein ne fonctionne plus, et ainsi de suite. On est parti immédiatement, vous voyez, dans un espèce de tourbillon épouvantable. Et ce que je raconte dans le livre, bien entendu, un jour arrive, il y a un pauvre garçon, très jeune aussi, qui se casse la figure en moto à Marseille et qui devient donneur de cœur. Et le cœur de ce garçon est compatible avec le cœur de Carole, je l'appelle Carole, de Carole. Et donc, il va falloir aller le chercher. J'explique comment on va le chercher. Alors, on nous prend souvent pour des cow-boys, mais parce qu'on a 4 heures devant nous pour ramener l'organe. Donc, on est à Paris, à l'hôpital Pompidou. Il faut aller chercher à la Timone, vous voyez, à Marseille.
Du pays, tout simplement.
Il faut un avion, il faut des policiers pour nous accompagner, pour faire la voie. Pimpon, pimpon, c'est un peu comme ça. Le cœur revient dans ta glace. On a envoyé deux personnes de notre service pour aller prendre le cœur. Nous, pendant qu'ils sont allés prendre le cœur, on a mis Carole en bloc opératoire, avec toutes ces machines, vous imaginez, parce que ça a l'air de rien, mais quand vous avez un cœur artificiel, vous avez des palanquées de seringues autopousseuses pour vous mettre au bloc opératoire, ça a l'air de rien, mais c'est quand même vraiment compliqué. Les anesthésistes sont formidables. Et donc, on la met à ce moment-là au bloc opératoire. On commence, sans lui enlever son cœur, surtout, on commence à mettre en place une circulation extracorporelle pour être prêt au moment où le cœur va arriver, à faire la transplantation. Puis je raconte la transplantation, puis je raconte 20 ans après.
20 ans après, c'est ce qu'on a envie de retenir. 20 ans après, ça va bien. On va maintenant donner la parole aux auditeurs de l'émission.
Priorité Santé, l'émission qui met votre bien-être au cœur des discussions.
Et la santé, si on a parlé.
Et ce premier auditeur, c'est vous, Monsieur Barry. On vous retrouve en Côte d'Ivoire, précisément à Dimbokro. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Alors, vous
bonjour,
êtes...
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes un doyen, monsieur Barry. Vous avez en effet 82 ans. Vous êtes allé consulter un cardiologue il y a bientôt 10 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à aller voir ce spécialiste, s'il vous plaît?
Bon, j'ai fait une crise ici. On m'a traité d'hypertendu alors que d'habitude, je suis hypotendu. Donc, on m'a traité comme un hypertendu et ça affaiblit le cœur, disons. Et après, je me suis rendu chez les spécialistes à Abidjan. Voilà, on a décidé que j'avais, au lieu d'une hypertension, c'était plutôt une crise cardiaque. Voilà, bon.
On vous a donné un traitement après ce diagnostic d'infarctus?
Oui, on m'a prescrit des médicaments.
Oui.
Des séries de comprimés là. Ensuite, on m'a fait faire une coronarographie.
Oui.
Bon, ça n'a pas suffi. Il a fallu faire une opération à cœur ouvert à l'Institut de cardiologie à Abidjan. Avec le service du professeur Ngueta, Roland Ngueta.
Roland Ngueta, qu'on entend souvent dans cette émission.
Très souvent, je le suis même. Merci à lui.
Alors. Voilà, donc. Aujourd'hui, vous êtes là pour en parler, c'est une excellente chose. Est-ce que vous avez encore des sensations bizarres parfois, voire même des douleurs au niveau de la poitrine?
Voilà, même à l'instant là, j'ai des douleurs.
Oui.
Sur le côté gauche, ça radie dans le bras gauche. Voilà, bon, c'est tout le côté, la poitrine, quoi, la moitié de la poitrine.
J'imagine, Monsieur Barry, que vous voyez régulièrement ou vous avez une consultation régulière de suivi. Comment est-ce que ça se passe en termes d'accompagnement et de suivi à Abidjan?
Avant, j'allais à Abidjan. Bon, pour finir, il y a eu un service de cardiologie qu'on a installé à l'hôpital régional ici. Bon, je suivais là.
L'hôpital régional, c'est Yamoussoukro?
Non, c'est à Dimbokro même, à Dimbokro.
Directement, d'accord.
Voilà, directement.
Et qu'est-ce que vous disent les médecins au niveau de cet essoufflement et de ces douleurs?
Bon, on trouve que c'est bon. On trouve que c'est bon, que le rythme est bon. Bon, on me dit de continuer à prendre les médicaments, mais quand je continue à prendre. Bon, après, il y a d'autres médicaments qu'il faut prendre. Je suis diabétique en plus, j'ai des ulcères gastriques, tout ça. Bon, sans compter des neuropathies, là. Bon, je prends beaucoup de médicaments, en fin de compte.
Ouais, on entend tout ça.
Mais c'est surtout le cœur, là, qui, à un moment donné, bon, je suis essoufflé. Un moindre effort, je suis essoufflé. Bon, puis la chaleur est aussi insupportable. Bon, ça agit aussi, voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Et votre question, c'est par rapport à ça, à ces sensations qui restent malgré l'opération, c'est ça?
Voilà, malgré l'opération, malgré les traitements que je continue à prendre, je continue à faire. Au niveau du cœur, je fais des médicaments. Bon, ensuite, il y a d'autres.
Mais on a entendu aussi, Monsieur Barry, c'est qu'avec votre âge et tous ces médicaments que vous prenez, notamment pour le diabète, ça fait quand même beaucoup pour votre santé. Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, des douleurs persistantes malgré une opération du cœur et un traitement, c'est quelque chose que l'on voit souvent ou c'est quelque chose d'assez rare?
C'est quelque chose de relativement rare, si vous voulez. Il faut faire un peu la part des choses chez votre patient. Il dit qu'il a fait un infarctus, enfin une crise cardiaque. Donc cet infarctus, eh bien, il a entraîné une partie du cœur qui se contractait moins bien. Et ça, malheureusement, ça ne se peut pas se récupérer. En revanche, le pontage qu'on lui a fait a pour but d'empêcher les zones du cœur qui restent viables de souffrir. Et malheureusement, l'atteinte est sans doute importante et il reste encore des zones qui, d'elles, au moindre effort, semblent encore souffrir puisqu'il décrit finalement ce qui est une angine de poitrine. Donc, évidemment, on peut traiter ça médicalement et je pense que si jamais ça devait durer, en quelque sorte, ça peut valoir la peine, évidemment, de refaire une coronarographie pour éventuellement compléter ce qui a été fait par le pontage, compléter par exemple avec des stents, ce qui est parfois possible s'il y a des sténoses qui restent très importantes.
Voilà pour ce commentaire par rapport à la situation que vous nous avez décrite. Un grand merci à vous, hein, monsieur. Très très bonne journée en Côte d'Ivoire. On va maintenant partir pour Paris. C'est là qu'on retrouve tout de suite Dieudonné. Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous appelez au sujet de quelqu'un de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît ?
Oui, en fait, c'est une patiente qui a subi en 2010 une valvoplastie mitrale. Mm. Et donc, il s'avère que ce sont des valves biologiques qui ont été mises en place, sinon implantées.
D'accord. Elle a quel âge aujourd'hui, cette personne ?
Aujourd'hui, elle a 30 ans.
Ça veut dire qu'elle a été opérée il y a combien de temps ? Il y a une quinzaine d'années ?
Une quinzaine d'années, exactement, depuis 2010.
Donc, ça veut dire que cette personne était jeune, hein, adolescente au moment de l'opération. Sa cardiopathie, elle a été diagnostiquée à ce moment-là. Suite à quels symptômes ?
Bon, en fait, le diagnostic a été fait quelques années avant, notamment en 2006.
Oui.
Et avant ces diagnostics, depuis sa toute petite enfance, il y avait quelques symptômes, notamment des dyspinées, des vertiges, des fatigues épisodiques. Mm-hmm. Et donc, en 2006, que le diagnostic a été établi. Mm-hmm. Et l'opération a été faite en 2010.
D'accord. Je peux vous poser une question. Est-ce que cette personne, elle avait grandi en Europe ou elle avait grandi en Afrique subsaharienne ?
Sur l'Afrique subsaharienne, ouais. En particulier au Congo-Brazza. Mmh.
Et elle avait eu des infections dans son enfance, des maladies de la petite enfance ?
Justement, elle a eu à contracter plusieurs fois des angines. Et même dans les diagnostics, on a signalé une infection rhumatismale. Mmh.
Donc, elle a été opérée il y a une quinzaine d'années. Vous aviez précisément, Dieudonné, une question par rapport aux suites opératoires. Je vous en prie.
Justement, en fait, deux questions. Sinon, la première, c'est savoir, au regard de cette intervention chirurgicale qui date aujourd'hui de 15 ans, quelles sont les recommandations qui sont d'actualité pour un éventuel remplacement de ces valves ? C'est la première question.
Mmh. Alors, cette première question, je vais bien sûr donner la parole à notre invité, mais évidemment, c'est au cardiologue qui suit votre proche de répondre directement. On ne peut pas, sur une décision d'une telle importance, donner un conseil par le biais de la radio, vous le comprenez bien. Néanmoins, professeur Fabiani Salmon, je vous donne la parole à ce sujet.
Alors, puisqu'elle a eu un rhumatisme articulaire et une valve mitrale atteinte, remplacée par une bioprothèse, il est vrai que, surtout chez les jeunes, les bioprothèses peuvent s'altérer, se calcifier avec le temps. Alors, le temps est variable selon les individus, mais c'est très facile de savoir s'il est nécessaire de la changer ou pas. C'est grâce à l'échographie qu'on va très facilement, le cardiologue va très facilement dire si cette valve fonctionne toujours aussi bien, ou si elle se rétrécit, ou bien si elle fuit à nouveau. Auquel cas, bien entendu, se posera le problème. En effet, vous avez parfaitement raison, monsieur, de la réintervention.
Et c'est rassurant parce qu'une échographie, on va dire finalement, surtout quand on vit en France, c'est une opération, c'est un contrôle, un examen qui est simple. Hein. C'est pas comme la coronographie qui est beaucoup plus invasive.
Tout à fait.
Là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une deuxième question, Dieudonné, je vous en prie.
Oui, la deuxième question, quels seraient les dangers de garder ces mêmes valves pendant plus ou moins des décennies ?
Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si la valve s'altère, eh bien on va être revenu au problème qu'avait la personne dont vous parlez initialement. C'est-à-dire qu'elle va avoir soit un rétrécissement mitral, soit une insuffisance mitrale, qui va s'aggraver très rapidement, parce que là, ça peut s'aggraver très très rapidement. Il faut absolument pas les garder, il faut absolument les changer à ce moment-là.
Oui, on peut pas dire, on attend et on voit ce qui se passe.
Non,
hein.
Non.
Ça veut dire que cette personne, le conseil par rapport à ce qu'on a entendu, c'est de se rapprocher du service de cardiologie, bien sûr échanger avec le médecin pour qu'il puisse faire passer tous les examens pour rassurer cette personne.
Oui, évidemment, si vous me permettez, c'est vrai qu'il y a un suivi, les examens ont été faits, et en particulier l'échographie.
Oui.
Ben, il a été signalé une fuite mitrale persistante. Est-ce que c'est vraiment un danger au regard de ce que le docteur venait de dire ?
Bah, tout dépend du degré de la fuite mitrale. Si c'est une petite fuite mitrale, éventuellement, on peut surveiller. Mais si c'est une fuite mitrale qui est importante, et surtout si elle s'aggrave, d'examen en examen, alors là, il faut faire quand même des échographies tous les 6 mois. Hein. D'examen en examen, il faut absolument faire quelque chose.
Dieudonné, on peut imaginer que la lecture de cette échographie, elle a été faite avec le spécialiste qui a émis des recommandations.
Évidemment, avec les spécialistes, notamment les cardiologues, mais dans les recommandations, c'est juste la surveillance régulière d'échographie.
Ben, je pense que là, la réponse, vous l'avez sous les yeux. Si le médecin dit une surveillance régulière, l'important, c'est effectivement cette régularité et de se rendre bien au rendez-vous, aux consultations de suivi comme prévu.
D'accord.
Voilà, très très bonne journée, Dieudonné. Le regard d'un spécialiste du Sénégal, c'est tout de suite.
RFI à Ziguinchor. FM.
C'est en Casamance qu'on vous retrouve, docteur Simon-Joël Manga. Bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Vous êtes chef du service de cardiologie de l'hôpital de la Paix Ziguinchor, maître de conférence agrégé en cardiologie à l'unité de formation en sciences de la santé à l'université Hassan Sec. Alors, chez vous, en Casamance, c'est quoi les principales affections que vous prenez en charge en cardiologie ?
Merci, madame Paré. Bonjour au professeur Fabiani.
Bonjour, et chers confrères.
À tous les auditeurs de Radio France Internationale. Alors, je pense que la présentation des pathologies n'est pas très différente de ce qui se passe un peu partout ailleurs. C'est l'hypertension artérielle. Mmh. Qui est de loin la première pathologie que nous avons à prendre en charge. Et à peu près un tiers de notre consultation est constituée par les patients hypertendus.
Les patients hypertendus. Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question ? Parce que je crois que dans votre service, vous faites aussi de la cardiologie pour les enfants. Par rapport au témoignage qu'on vient juste d'entendre avec Dieudonné sur ses conséquences d'infections mal soignées, retentissement sur la santé cardiaque. J'imagine que dans votre contexte aussi, vous en avez.
Oui. Nous avons encore malheureusement beaucoup de valvulopathie rhumatismale. Et dans près de 15% des patients que nous recevons, c'est des enfants qui ont eu des angines maltraitées, du rhumatisme articulaire aigu, et qui malheureusement se compliquent souvent de ces infections rhumatismales, ces valvulopathies rhumatismales, qui nécessitent de la chirurgie. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul centre de chirurgie au Sénégal, c'est à Dakar, avec encore des coûts assez élevés pour la moindre de la population sénégalaise.
On peut imaginer, d'autant plus qu'il faut accompagner dans ces cas-là les enfants, et ça implique aussi toute une organisation familiale. Est-ce que pour certaines affections cardiaques, vous constatez une prise en charge plutôt tardive, voire même parfois des problèmes de diagnostic ?
Oui. Il y a beaucoup de retard à la consultation. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne viennent pas, qui ne se rendent pas directement à l'hôpital, donc préfèrent faire retour de certains médecins qui ont recours plutôt à la médecine traditionnelle avant de se rendre à la consultation. Donc nous avions fait une étude qui montrait que ce retard pouvait prendre jusqu'à 15 jours par rapport au début des symptômes.
En termes d'examen sur place chez vous à Ziguinchor, en termes de plateau technique, vous disposez de quoi ? Et on peut dire aussi qu'est-ce qui vous manque ?
Alors, c'est un plateau basique. Nous avons l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, l'holter ECG. Et puis, nous avons également la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Mmh. Et par contre, nous n'avons pas de tapis d'épreuve d'effort pour faire les épreuves d'effort chez certains patients avec des indications cliniques et bien sûr, pas de cardiologie interventionnelle.
Ouais, ça veut dire qu'il y a toujours des évacuations sanitaires nécessaires sur la place de Ziguinchor, hein, c'est bien ça ?
Oui. Tous les patients qui nécessitent une intervention chirurgicale, une exploration par cathétérisme cardiaque sont évacués vers Dakar.
Alors, à côté des interventions et de vos prises en charge, est-ce que les soignants de votre service s'engagent et animent aussi des programmes de prévention au niveau régional ?
Alors, il nous arrive, par le biais de l'université surtout, de faire des campagnes essentiellement. On associe à la fois des activités de consultation et des activités de sensibilisation en population générale. Mais essentiellement, c'est des campagnes qui sont organisées par le biais de l'université et avec l'aide des étudiants qui sont en formation.
Alors précisément, si on avait un dernier message à faire passer, tout à l'heure vous parliez du retard de prise en charge, alors qu'on sait que pour un certain nombre de ces atteintes, eh bien, le facteur temps est très important. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message ?
Alors, les messages, il y en aura beaucoup.
Il nous reste hélas quelques minutes, donc je vous en prie.
Voilà, donc le message peut-être le plus important, c'est d'encourager les populations à consulter précocement l'apparition des symptômes et peut-être demander à augmenter le nombre de spécialistes en région. Nous ne sommes pas du tout nombreux.
Oui, c'est toujours important d'avoir des personnes qui sont formées, qui sont compétentes en dehors des grandes villes, surtout quand on vit dans une région éloignée comme la Casamance. Un grand merci à vous, hein, docteur Simon-Joël Manga. Très, très bonne journée à Ziguinchor, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. L'avenir de la chirurgie cardiaque. Tout à l'heure, en quelques mots, vous avez cité ce cœur artificiel. Mais au-delà, pour vous, c'est quoi ce qui peut changer les choses ? C'est la technique ou c'est toujours encore les hommes et les femmes ?
Évidemment, la médecine ne se conçoit qu'à travers les hommes et les femmes dont on s'occupe. Hein. C'est clair. Mais il est clair aussi que la technique a fait tellement de progrès au cours des dernières décennies que demain, de plus en plus, les chirurgiens cardiaques vont avoir à s'occuper ils s'occupaient des valves, là, dont on vient de parler. Ils s'occupaient des coronaires avec des pontages. Mais maintenant, ils vont s'occuper de plus en plus du muscle cardiaque lui-même. Soit par l'intermédiaire de transplantations quand elles sont possibles, soit grâce à des machines qui sont maintenant de plus en plus efficaces, comme, bien sûr, le cœur artificiel Carmat, dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui est le cœur défini par Alain Carpentier, qui va avoir à terme le but de remplacer complètement le cœur chez les gens qui ne peuvent pas avoir de transplantation.
Même si on a compris qu'il y a encore un fossé en termes d'accès aux soins immense qui reste à combler.
C'est clair, c'est très clair. Mais sachez que le 21e siècle, qui va continuer à s'accélérer sur le plan de la médecine. Demain, vous allez avoir un rein artificiel implantable, un foie artificiel implantable et pourquoi pas un poumon artificiel implantable. Autrement dit, demain, les chirurgiens vont être des implanteurs d'organes artificiels.
Merci beaucoup. Encore beaucoup de choses à découvrir dans votre livre « Votre cœur, cet inconnu » publié chez Albin Michel. Grand merci à vous, hein, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. On va parler nutrition juste après Mini Riperton, « Loving You », flashback 50 ans en arrière sur RFI.
Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love and you. Filled with love and you.
On parle alimentation et santé maintenant dans Priorité Santé. Aujourd'hui, précisément, de l'alimentation des enfants. Des conseils aux parents qui s'intéressent de près à la qualité de la nourriture, à cette qualité des repas. Des conseils, mais aussi des mises en garde. Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal. C'est vrai que d'après votre expérience, eh bien ces envies de bien nourrir les enfants, ça peut aussi entraîner des pratiques qui ne sont pas forcément souhaitables. Alors pourquoi précisément ?
Alors, l'alimentation des enfants, c'est bien sûr un sujet qui préoccupe les parents, c'est tout à fait normal, surtout quand ils sont convaincus, entre autres, que leurs enfants ne mangent pas suffisamment, ou qu'ils mangent trop, ou qu'ils refusent de manger certains aliments. Toutes ces questions-là, ça peut les pousser à avoir des comportements ou à commettre des erreurs par rapport à l'alimentation de leurs enfants.
Alors, Bintou Chersek, ces erreurs, vous en avez relevé quatre. La première, obliger l'enfant à terminer son assiette.
Une erreur bien fréquente, obliger un enfant à terminer en fait une portion que le parent lui a arbitrairement servie finalement, eh bien ça pousse l'enfant à ignorer ses sensations naturelles de rassasiement et à manger plus que ses besoins. Et à force, l'enfant ne sait plus reconnaître le signal du rassasiement et apprend à surconsommer de la nourriture, ce qui peut contribuer à la survenue de ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire, et bien sûr même le surpoids. Alors, il faut savoir que lorsqu'un enfant s'arrête de manger, c'est qu'il n'a plus faim, son cerveau lui a ordonné de s'arrêter de manger et il ne faut pas obliger cet enfant-là à continuer.
Alors, une autre erreur fréquente, là sont les parents qui essayent de forcer l'enfant à manger un aliment qu'il n'aime pas.
Tout à fait. Par exemple, beaucoup d'enfants, ou peut-être même la plupart, n'aiment pas les légumes, ou encore moins le poisson. Et essayer de forcer son enfant à manger un aliment fait du moment du repas un moment stressant, en fait, et désagréable, alors que ça devrait être l'inverse. Et ça peut entraîner un dégoût de la nourriture et même une aversion pour les repas dans le cadre familial. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est de continuer à proposer cet aliment-là à l'enfant sous diverses formes. Il y a même des études qui montrent qu'il faut présenter l'aliment au moins 15 fois pour que l'enfant accepte d'essayer. Et donc, on présente sous diverses formes et on encourage l'enfant gentiment à y goûter.
Alors, ce qui est déconseillé, c'est donc que les parents forcent les enfants à manger des aliments qu'ils n'aiment pas. Mais tout autant, les parents devraient éviter de préparer des mets, des aliments que leurs enfants aiment. Ça devient compliqué, expliquez-nous.
Alors, il y a des parents, par peur que les enfants ne mangent pas ou pas suffisamment, eh bien, présentent aux enfants que les mets qu'ils apprécient et mangent facilement. Par exemple, les pâtes, des pommes de terre frites, des poulets panés, etc. Il y a même des cas où les parents préparent deux mets différents tous les jours, un pour les enfants et un pour les adultes. Bon, le résultat est que les enfants ont une alimentation peu variée, ce qui peut entraîner des carences. En plus, ces enfants n'apprennent pas à introduire dans leur monde, en fait, de nouveaux aliments avec leurs nouvelles textures et saveurs. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir un menu unique, équilibré et varié, qui permet à l'enfant d'apprendre à manger de tout.
Alors, on va terminer avec une erreur, c'est d'utiliser la nourriture comme une monnaie d'échange. Qu'est-ce que ça signifie ?
En fait, c'est quand les parents se servent de la nourriture comme un outil de récompense ou de punition. Par exemple, si tu manges tes haricots verts, je te donnerai de la glace. Ou si tu n'es pas sage, tu n'auras pas droit au dessert. Donc ça contribue à un rapport assez malsain avec la nourriture, où le fait de manger ou de manger certaines choses, certains aliments, est lié aux émotions, aux circonstances, plutôt qu'aux besoins naturels de manger.
Un grand merci, Bintou Chersek. Tous ces conseils, on les retrouve en podcast sur le podcast de l'émission, appli RFI Pure Radio, Priorité Santé. Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pau, Victor Hull, Olivier Roux à la réalisation. Priorité Santé, c'est tous les jours à 9h10 et 1h10, temps universel. Restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.